Dixième élégie. Qu'un jour prochain, au terme des visions furieuses, je chante toute gloire et toute joie parmi le salut des anges. Que des marteaux du cœur au battement limpide, aucun ne frappe une corde molle, tremblante ou prête à se briser. Que mon visage en pleurs me fasse plus rayonnant, que l'invisible larme fleurisse. Et comme alors, ô nuit, vous me deviendrez chère, nuit de détresse, que ne vous ai-je reçus à genoux, sœurs inconsolées, que ne me suis-je défait dans vos cheveux défaits. Nous, puits de douleur, nous les suivons là-bas, dans la triste durée, comme si elles étaient sans fin. Elles sont pourtant notre feuillage, en plein hiver, notre pervenche obscure, une des saisons de notre année secrète. Non seulement la saison, le lieu, le séjour, la base, le sol, la demeure. Vraiment, hélas, comme elles sont étrangères, les ruelles de la ville souffrance, où dans le faux silence, né du fracas, puissante, issue du moule, du vide, l'averse éclate, l'enfer doré, le monument du vacarme. Oh, comme un ange, sans laisser de traces, l'écraserait leur marché aux consolations bordées par leur église, l'église de quatre sous, nette et close et piteuse comme un bureau de poste le dimanche. Mais dehors, c'est toujours le grouillement des abords de foire, manège de la liberté, plongeurs et magiciens du délire. Et le tir au bonheur et ses figures charmantes où la cible frétille et fait son bruit de tôle quand un champ se fait mouche. Au fil de la fortune, il poursuit son ivresse, car les baraques jouent du tambour, piaillent, racolent tous les curieux. Mais pour les gens sérieux, il reste encore à voir. Surtout, comment l'argent se reproduit, anatomiquement, et non seulement pour le plaisir, l'organe de l'argent, toute l'affaire, le processus, très instructif et très fertile. Oh, mais juste après, là, derrière la dernière planche où est collée l'affiche « Mort nulle », cette bière amère, que les buveurs semblent adorer, toujours agrémentée de subtiles distractions. Juste derrière cette planche, juste là, est la réalité. Des enfants jouent, des amoureux s'étreignent, à l'écart, graves, dans l'herbe maigre, et les chiens sont en liberté. Plus loin encore s'en va l'adolescent. Peut-être est-ce une jeune plaintive qu'il aime. Il la suit à travers les champs. Elle dit « Loin, nous habitons là-bas, en dehors. » « Où ?» Et le jeune homme la suit, ému par son maintien, les épaules, le cou. Peut-être est-elle de noble lignée. Mais il la laisse, revient, se retourne, fait signe. À quoi bon? C'est une plaintive. Seuls les jeunes morts, dans cet état premier d'indifférence, hors du temps, celui du détachement, la suivent avec amour. Les jeunes filles, elle les garde et s'en fait des amis, leur montre avec douceur ce qu'elle a sur elle, les perles de la douleur et les voiles transparents de l'acceptation. Avec les adolescents, elle marche en silence. Mais là où elles habitent, dans la vallée, la plus vieille des plaintives veut répondre elle-même au jeune homme s'il interroge. « Nous étions, dit-elle, une noble descendance, autrefois, nous les plaintives, les pères exploitaient la mine, là-bas, dans la grande montagne. Chez les hommes, tu as trouvé parfois un éclat taillé à même la douleur, où, jailli de l'ancien volcan, l'écume durcie de la colère. Oui, cela venait de là-bas. Jadis, nous étions riches. Et elle le guide doucement dans le grand paysage des plaintives, lui montre les colonnes du temple ou les ruines des châteaux, d'où les princes des plaintives, jadis, gouvernaient sagement le pays, lui montre les grands arbres de larmes et les prairies en fleurs de la mélancolie. Les vivants n'en connaissent que les premières feuilles douces, lui montre les bêtes du deuil qui paissent. Et parfois s'effarouche un oiseau et s'enfuit d'un seul trait devant le regard et dans l'espace grave l'image de son cri solitaire. Le soir, elle le mène aux tombes des ancêtres de la descendance des plaintives, les sibylles, les prophètes. Mais à la nuit tombée, ils vont d'un pas plus doux et bientôt, tel un lever de lune, le monument funèbre qui veille sur toute chose, frère de celui du Nil, le sphinx, souverain, le visage de la chambre close en silence. Et ils admirent la tête couronnée qui pour toujours silencieuse à poser le visage de l'homme sur la balance des étoiles. Mais son regard ne le voit pas, ivre encore de la mort éclose. Mais elle, sa vue, longeant le bord du Pchent, effarouche la chouette. L'oiseau, frôlant d'un long vol pâle, la joue à la courbe plus mûre, dessine avec douceur dans la nouvelle écoute du mort, sur une double feuille grande ouverte, l'ineffable contour. Et plus haut, les étoiles. Nouvelles, les étoiles du pays des larmes. Lentement les nomme la plaintive. Ici, voit le cavalier, le bâton, et cette constellation plus dense s'appelle la couronne de fruits. Puis plus loin vers le pôle, le berceau, le chemin, le livre ardent, la poupée, la fenêtre. Mais dans le ciel du sud, pur comme au cœur d'une main bénie, le grand M étincelant, qui signifie les mers. Mais le mort doit poursuivre, et en silence, la plus vieille des plaintives le mène au seuil de la vallée, où resplendit au clair de lune la source de la joie. Avec vénération, elle la nomme et dit: chez les hommes, elle est un fleuve d'extase. Ils sont au pied de la montagne, et là, elle l'entoure de ses bras et pleure. Seul, il s'en va vers les cimes de la douleur pure, et pas une fois son pas ne sonne dans le silence du destin. Mais s'il devait en nous, les morts sans fin, éveiller une image, vois, il nous montrerait peut-être les chatons dans le noisetier vide, les suspendus, ou évoquerait la pluie qui tombe sur l'obscur royaume de la terre au printemps. Et nous, qui pensons au bonheur qui monte, nous aurions l'émotion qui nous bouleverse presque quand tombe une chose heureuse.